Ottawa, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Diab pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel du lundi 29 mai 2017 au sommaire. Au Mali, selon un élu local, il demande donc la dilapidation annoncée il y a quelques jours dans le nord du pays. La République démocratique du Congo d'accord pour un test anti-Ebola plus de deux semaines après avoir déclaré l'épidémie dans une région du nord-est. Au Maroc, Nasser Zefsavi, le chef de la contestation populaire dans le nord du pays, finalement arrêté après deux jours de cabale. Le ministre allemand des Affaires étrangères accuse le président américain Donald Trump de vouloir affaiblir l'Europe. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. La République démocratique du Congo donne son feu vert au test pour un éventuel vaccin contre le virus Ebola. Un responsable du ministère de la Santé a indiqué que la RDC accepte l'utilisation des tests de vaccin contre le virus Ebola. Une épidémie s'est déclarée dans une région du nord-est depuis le 12 mai. L'OMS a annoncé le 18 mai qu'il existait un vaccin prometteur dont les stocks pourraient être acheminés en quelques jours en RDC. Au Gabon, une vingtaine de personnes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de se rassembler à Libreville. Selon le procureur Steve Ndong, ces personnes arrêtées samedi auraient commis des outrages envers des agents de la sécurité publique qui avaient investi le quartier de Kembo où devait se tenir une manifestation. Les manifestants sont des membres d'un mouvement citoyen « La Voix du Peuple » a indiqué pour sa part un communiqué du cabinet de Jean Ping qui demande leur libération immédiate. Au Rwanda, les candidats à la présidentielle du 4 août prochain devront soumettre à la commission électorale tout message qu'ils souhaitent publier sur les réseaux sociaux. La mesure prendra effet dès le début de la campagne électorale. La décision a été critiquée par l'opposition qui craint son utilisation pour empêcher toute critique envers le régime du président Paul Kagame. Mais pour le chef de la commission électorale, c'est dans le but de limiter les dégâts et éviter des expressions, des paroles, des actes qui peuvent amener la population à des actes d'insécurité. Nusra al-Muslimin al-Islam, la nouvelle alliance djihadiste dans le Sahel, réfute la lapidation d'un couple dans la zone d'Aguelog, dans le nord malien. Le couple en question a été libéré selon un communiqué du groupe djihadiste publié en arabe en fin de semaine. Certains habitants d'Aguelog ont confirmé l'information des djihadistes parce qu'ils ont vu les deux personnes en bonne santé, c'est-à-dire donc que la lapidation à mort n'a jamais eu lieu. Les détails avec Kassim Traoré.
Le dimanche 14 mai 2017, des informations indiquaient que des djihadistes installés dans la zone d'Aguelhok ont procédé à la lapidation d'un couple. Selon les informations, ce couple vivait ensemble depuis 4 ans sans se marier. C'est la jeune dame qui a été accusée d'avoir un enfant hors mariage. Deux semaines après cet acte, les djihadistes démentent la lapidation du couple composé de Baka Walet Ahmed et de Atsag Ahmed à Taglit, dans la région de Kidal. L'information concernant leur libération a été confirmée par certains habitants d'Aguelhok, qui les ont vus sains et saufs. Les mêmes sources ajoutent qu'ils sont toujours surveillés de près par des hommes armés. Par la même occasion, Nusra al-Muslim al-Islam réfute les nouvelles sur l'enlèvement de l'équipe du CICR à Tungurukumbe dans la région de Mopti, avant d'affirmer que l'équipe du CICR est rentrée sur leur territoire sans les informer. Et ils ont été arrêtés pour des enquêtes, ensuite libérés. Il est à signaler que malgré la présence des forces internationales Barkhane et MINUSMA dans la région de Kidal, ce sont les djihadistes qui contrôlent les principales routes dans le secteur de Tessalit et environnant. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Aujourd'hui marque le deuxième anniversaire de l'arrivée de Muhammadu Buhari à la présidence nigériane, un anniversaire célébré à Abuja et en son absence puisque le président Buhari est à Londres pour y subir des traitements. Son état de santé fait toujours objet de spéculations et un groupe de personnalités avait publiquement demandé à M. Buhari de se retirer pour des raisons médicales. Au Maroc, Nasser Zefsavi, le chef de la contestation populaire dans le nord du pays, recherché par la justice depuis deux jours, a été arrêté après avoir défié l'État pendant plus de six mois. Les précisions de Blanche Sanou.
La police a arrêté Zefsavi ce matin, selon une source gouvernementale. Il a été interpellé en compagnie d'autres individus et a été transféré dans la foulée à Casablanca, sans autre précision sur les circonstances ni le lieu de son incarcération. Les personnes arrêtées feront l'objet d'une enquête pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'autres actes constituant des crimes en vertu de la loi, a ajouté le procureur. M. Zefsavi était recherché depuis vendredi pour avoir interrompu le prêche d'un imam à la mosquée Mohamed V, la principale mosquée de la ville d'Al-Oseima. Il est accusé d'avoir insulté le prédicateur et prononcé un discours provocateur. Ce chômeur de 39 ans est devenu le visage du mouvement populaire qui secoue la région du Rif depuis la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures.
En Tunisie, un dirigeant de l'organisation État islamique qui préparait des opérations durant le Ramadan a été tué par les forces de sécurité près de Kasserine dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé le ministère de l'Intérieur ce lundi. Cet individu qui faisait l'objet de 11 mandats d'arrêt pour implication dans des opérations terroristes, mais son identité n'a pas été divulguée. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en visite en Égypte a rencontré son homologue Samer Choukri au Caire et au menu des entretiens, le conflit en Syrie et en Libye. Vendredi, l'armée de l'air égyptienne a mené des raids contre des camps d'entraînement djihadistes en Libye voisine. Quelques heures après, une attaque contre des Coptes dans le centre de l'Égypte. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles. Après le tapis rouge dans un décor somptueux, les deux hommes ont abordé des sujets chauds comme le terrorisme, la Syrie ou l'Ukraine. Ils ont donné ensuite une conférence de presse conjointe dont voici quelques extraits. Le président français Emmanuel Macron, puis Vladimir Poutine avec son interprète.
Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Nous avons donc eu l'occasion de passer en revue l'ensemble des dossiers avec le président Poutine. Sur la Syrie, notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie.
On a discuté les solutions de la crise syrienne, évidemment. On s'est mis d'accord que notre tâche principale, c'est la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président a proposé de créer un groupe de travail, d'assurer les échanges des délégations russes et françaises. Et je voudrais saluer que sur le plan pratique, il faut coordonner nos actions dans la lutte contre le terrorisme. Je répète, on peut aboutir à un succès uniquement si on agit de concert contre cette peste du 21e siècle.
C'était les présidents russes et français après leur première rencontre à Versailles. Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel estime que les actions du président américain Donald Trump ont affaibli l'Occident et accuse la politique des États-Unis d'être contraire aux intérêts de l'Union européenne. Les États-Unis jugent qu'imposer les intérêts nationaux est plus important que l'ordre international, a déploré M. Gabriel, ajoutant que la politique à courte vue du gouvernement américain est contraire aux intérêts de l'Union européenne. Aux États-Unis, célébration ce lundi du Memorial Day, la journée de commémoration des personnes mortes dans les guerres. Le dernier lundi du mois de mai est un jour férié pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la patrie. Des précisions avec Arzuma Compaoré.
Aujourd'hui, nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice ultime en servant. C'est ce qu'a déclaré le président Donald Trump dans un commentaire Twitter, ajoutant que Dieu bénisse vos familles et Dieu bénisse les USA. Au cimetière national d'Arlington, en Virginie, le président Donald Trump a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.
Thank you for joining us as we honor the brave warriors who gave their lives for ours.
La cérémonie solennelle est le point culminant d'un week-end placé sous le signe de la mémoire pour les soldats américains qui ont sacrifié leur vie pour défendre ce pays. De façon non officielle, le Memorial Day marque le début de la saison estivale. C'est le jour où beaucoup d'Américains font des barbecues. C'est aussi la réouverture des piscines publiques dans la région de Washington.
Une semaine après l'attentat suicide à Manchester, la police britannique a arrêté un 14e suspect. L'émotion restait vive dans cette grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. Aujourd'hui, une procession traditionnelle anglicane dans la matinée de ce jour férié a commencé par l'énumération des noms des 22 personnes tuées. Selon le gouvernement, des complices pourraient toujours être en fuite. Et puis le ministre israélien de l'Intérieur et son épouse soupçonnés de fraude fiscale ont été interrogés ce lundi par la police dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée ce soir par Timothée Donangbaï.
Le Kenya inaugure mercredi une nouvelle ligne ferroviaire entre la capitale, Nairobi, et la ville portuaire de Mombasa sur l'océan Indien. Construit par la Chine et long de 472 km, ce chemin de fer est le plus important projet d'infrastructure depuis l'indépendance du pays en 1963. D'un coût de 2,8 milliards d'euros, la nouvelle ligne ferroviaire s'inscrit dans un plus grand projet, connecté par rail le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. L'économie guinéenne devrait continuer de croître avec une hausse de 6,7% de son PIB en 2017. C'est ce qu'assure un porte-parole du gouvernement que cite l'agence Ecofin à la suite d'une mission du Fonds monétaire international du 15 au 25 mai 2017 dans le pays. Parmi les secteurs où le FMI prédit un regain d'activité, les secteurs miniers et agricoles, mais aussi l'hôtellerie et l'énergie. Enfin, au Cameroun, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises fait état de la création de plus de 15 000 entreprises entre 2010 et 2016, avec l'appui de la Société financière internationale SFI. Ce chiffre a été publié à la clôture samedi d'une campagne gouvernementale portant sur la simplification des procédures de création d'entreprises et le renforcement des capacités des entrepreneurs locaux.
Et nous accueillons Eric Maniratiza dans ce studio pour la page des sports. Eric, bonsoir.
Bonsoir Abdou.
D'abord, la CAN 2017 de moins de 17 ans. On revient sur cette victoire du Mali devant le Ghana 1-0 en finale à Libreville.
L'unique but de la rencontre Abdou, marqué par Mamadou Samake, qui a permis aux cadets maliens de remporter leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans d'affilée. Et le Mali, tenant du trophée, rejoint au palmarès de la compétition le Nigeria 2001-2007 et le Ghana qui a gagné le trophée en 1995-99, la troisième place est revenue à la Guinée-Conakry, vainqueur du Niger 3-1.
On fait le point sur quelques championnats de football africain, Eric.
On jouait la 23e journée en Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa occupe la tête de l'affiche avec 42 points. Il est talonné par Williamsville, ASC. 41 points au Cameroun. C'était la 16e journée. Heading Sport Lekier et UMS Loom sont respectivement premier et deuxième avec une différence de 2 points. Enfin, au Togo, Abdou, l'AS Togo Port a été sacré champion du Togo pour la première fois de son histoire à l'issue de la 26e et dernière journée de première division.
En Espagne, Luis Enrique quitte Barcelone.
Le nom de son successeur est attendu ce soir. L'ex-technicien de Bilbao, Ernesto Valverde, est pressenti pour hériter le club catalan. L'attaquant argentin Lionel Messi a publié un message sur son compte Facebook pour saluer le départ de Luis Enrique. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta vie, Luis Enrique. Merci pour ces années, a écrit la star du Barça.
Et samedi, c'est la grande finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus de Turin.
Une occasion pour Zinedine Zidane d'inscrire son nom dans l'histoire de son départ, de son sport. Une victoire à Cardiff le ferait entrer dans le panthéon des entraîneurs ayant réussi l'exploit de gagner la Ligue des Champions 2 années de suite. Personne n'est parvenu à signer le doublé en Champions League depuis Arrigo Sacchi avec l'AS Milan en 1989 et 90. Zizou devra battre un club qui connaît sur le bout des pieds avec la Juventus Turin et la a brillé sur le terrain entre 1996 et 2001.
Peut-être un mot de NBA rapidement.
La superstar de Cleveland LeBron James a admis que Golden State et son impressionnant effectif représentaient l'un des plus grands défis de sa carrière.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président sud-africain Jacob Zuma a échappé à une autre motion de défiance ce week-end lors d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC à Pretoria. Le président Zuma continue de faire les frais de son remaniement ministériel controversé de la fin mars, qui a vu l'entrée au gouvernement d'une dizaine de ses proches et le départ du ministre des Finances Pravin Gordhan. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint David Zunmenou Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Je pense que cette motion de censure, la deuxième déjà en 6 mois, intervient dans un contexte un peu difficile, aussi bien pour l'ANC que pour l'Afrique du Sud, qui a vu un peu son statut relégué au statut d'État en défaillance. Et également au moment où même les partenaires traditionnels de l'ANC expriment des mécontentements par rapport à la situation politique du pays, à la façon dont l'ANC répond à certains problèmes, à certaines critiques dirigées contre le président. Mais c'était sans espérer, en tout cas, que cette motion de censure allait prospérer au sein de l'ANC, car cela pourrait avoir de graves conséquences, surtout qu'on est à 6 mois de la conférence élective de l'ANC où on connaîtra le prochain dirigeant du parti et indirectement le prochain président de l'Afrique du Sud.
Quelle marge de manœuvre cela laisse-t-il au président Zuma?
Le président Zuma dispose de 6 mois pour essayer de corriger son héritage politique. Et il faut le dire, c'est un héritage politique qui est émaillé de soupçons de corruption, de l'influence grandissante de la famille indienne appelée Gupta dans la gestion des affaires. Et déjà des informations qui circulent dans la presse font état de collision entre le président et cette famille qui s'est imposée un peu comme le faiseur de roi, très déterminant dans le choix des ministres, dans le choix des décisions et également très influent dans la façon dont l'État fonctionne en Afrique du Sud. Si ces allégations sont fondées, cela va dénoter de la fragilité de l'État sud-africain, sinon de l'environnement politique sud-africain, surtout au moment où et les Sud-Africains ne savent pas exactement qui a la capacité et l'intégrité morale pour pouvoir rehausser la barre, pour remettre l'Afrique du Sud sur les rails de développement socio-économique et mettre en place des mesures qui sont susceptibles d'apporter en tout cas des soulagements aux besoins et aux souffrances des millions de Sud-Africains qui espèrent toujours que la période post-apartheid peut être définie comme la période de la prospérité pour un pays qui ne manque pas de ressources.
Il y va de l'héritage politique du président Zuma, mais aussi du poids politique de l'ANC en Afrique du Sud.
Tout à fait. Avec les scissions qu'on observe au sein, par exemple, de l'allié traditionnel de Kossatou, qui s'est vidé un peu de sa substance avec l'émergence d'un nouveau groupe de la Fédération des syndicats sud-africains, dirigé par l'ancien secrétaire général de Kossatou, Jolé Zuma Babi. Je pense que l'ANC se trouve un peu en difficulté.
C'était David Zunmenou Dossou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria. Au Burkina Faso, les mouvements de la société civile se mobilisent pour dénoncer la gouvernance du régime en place. La coalition Boribana veut convaincre le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kabore de prendre une trajectoire qui tienne compte, je cite, des aspirations des populations. Cette coalition vient d'être mise sur pied par Hervé Ouattara, Safietou Lopez et Marcel Tankoano, trois leaders de la société civile, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
Exécution de l'hymne national, une maison du peuple aux trois quarts pleins, des membres d'une coalition gonflée à bloc, tout y était pour les leaders des organisations de la société civile que sont le mouvement du 21 avril M21 et l'APDC, Association pour la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne, qui lancent ainsi leur nouvelle coalition Bouribana.
Les politiciens arnaqueurs, les cambrioleurs politiques, les grincheux.
Ces leaders déchantent aujourd'hui sur la conduite des affaires de l'État par leurs anciens camarades de lutte et des promesses non tenues, s'insurge notamment un des membres de la coalition, Marcel Tankwano.
Que ceux qui nous ont flattés, qu'ils peuvent nous trouver à manger, qu'ils peuvent nous trouver de l'emploi, s'ils ne peuvent plus le faire, qu'ils le disent clairement. Notre camp s'appelle le peuple. Ceux qui nous gouvernent, ce qu'on dit des vieux, tant qu'on ne bouscule pas, nous n'allons pas arriver. Il faut bousculer pour avoir de la place. Norbert Dongo a dit, on ne demande pas la parole, on arrache la parole.
Tour à tour, chacun des trois leaders va égriner ce qu'ils ont tous qualifié de dérive, de nature à saper l'esprit de l'insurrection, détournement de données publiques, incivisme et faiblesse de l'autorité de l'État, toute une litanie de désillusions que pointe la porte-parole de la coalition, Safietou Lopez Zongo.
Nos dirigeants n'ont plus en tête l'esprit de l'insurrection populaire qui devrait les guider vers la mise en œuvre de bonnes politiques publiques. Nous rappelons à nos dirigeants que notre peuple s'est battu pour plus d'équité, de liberté et de justice sociale. Raison pour laquelle nous interpellons le président d'une façon, afin qu'il prenne toutes ses responsabilités face à la situation du pays. Notre peuple a besoin de réformes courageuses qui peuvent améliorer ses conditions de vie actuelles.
Un meeting qui aurait vu des tentatives de déstabilisation provenant de cercles de pouvoir rappelle la coalition et face auquel s'emporte Hervé Ouattara, le leader du CAR, citoyen africain pour la Renaissance.
Des CAR ont été interceptés, ils ont demandé à certains CAR de vider ceux qui sont là-dedans. Ils ont saisi des jeunes qui venaient à notre rencontre d'aujourd'hui pour leur signifier que nous voulons créer un parti politique pour débarquer le président Roch Marc Christian Kabore, un président démocratiquement élu. Nous avons dit, avant tout, nous sommes des jeunes conscients qui sont soucieux et respectueux des lois et des textes de notre pays, dont nous ne sommes pas des barbares. Une façon pour dire qu'à un moment, à une période donnée, lorsqu'on sent qu'on parle et que ce que nous disons n'est pas pris en compte, et qu'au pire, c'est balayé du revers de la main, à un moment donné, il faut tenir un langage qui met tout le monde au pas.
Nous sommes certes loin d'un remake de ce bras de fer qui avait opposé le pouvoir et la société civile avant la chute du régime de Blaise Compaoré, mais vu le ton de la coalition, cela reste sans doute l'un des avertissements les plus sérieux donnés par ce mouvement au président Roch Kabore. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, désarroi des cacao-culteurs issus des écoles paysannes du pays. Le prix du cacao, comme on le sait, a chuté sur le marché mondial, ce qui n'est pas de nature à encourager certains d'entre eux, par exemple dans la localité d'Eligue Fomo, à 60 km de Yaoundé. Et pourtant, ceux-ci sont engagés dans un programme agricole visant à produire désormais au Cameroun un cacao de qualité, programme qui attire cependant des investisseurs malgré le désarroi actuel. Reportage dans deux villages concernés avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jultap.
La création de 34 écoles paysannes dans la zone a contribué aux bonnes pratiques agricoles ici. Des écoles qui ont aussi ouvert leurs portes aux femmes. Odile Nkoussa est une veuve. Elle y a fait ses classes et sa plantation cacaoyère est présentée aujourd'hui comme un laboratoire de qualité dans son village à Tala 2.
Notre formateur nous avait appris à rajeunir le champ. Quand une fille de cacao est déjà très vieille et quand elle fait sortir les gourmands, et j'ai aussi pris la méthode de prendre les cabosses dans ce champ, faire la pépinière et planter comme vous le voyez.
Vous récoltez combien de sacs de cacao ici?
Une année, je récolte souvent plus d'une tonne.
Sur l'ensemble du territoire national, près de 800 écoles paysannes d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles assistent les cacao-culteurs. Objectif, changer la mauvaise réputation autour du cacao camerounais, comme le confirme André-Marie Assina Elouma, coordonnateur national du programme d'appui à la gestion de la qualité de la production des filières café-cacao.
La chaîne qui va de la cabosse qui est récoltée jusqu'au sac qui va dans le marché a beaucoup de problèmes. On a des mauvaises réputations qu'il y a les odeurs de fumée, il y a les odeurs de goudron, il y a les odeurs de fermentation. On peut créer une crème de cacao qui reflète les standards internationaux de qualité. Et on a des partenaires qui sont prêts à le prendre. On a amélioré le budget du projet cette année pour qu'on puisse vous doter en équipement pour ces récoltes.
Il reste que le rapport qualité-prix de cacao ne suit toujours pas. De quoi laisser les cacaoculteurs de la zone dans le désarroi et face aux coxeurs impitoyables.
Il y a des exportateurs qui ont des coxeurs qui leur donnent de l'argent pour venir ramasser notre cacao.
Lorsque le coxeur se présente devant toi, tu as peut-être un 5 sacs. Tes enfants doivent aller à l'école. Tu n'as pas d'autre choix.
Justement, la visite des investisseurs étrangers dans ces bassins de production de cacao de qualité visait à donner aux cacaoculteurs la conduite à tenir dans le contexte actuel où le prix du cacao est à la baisse sur le marché mondial. Narcisse Olinga, sous-directeur des échanges extérieurs au ministère du Commerce du Cameroun.
Vous serez rémunéré à un prix au-delà de ceux qui ne font pas la qualité. C'est pour cela que nous sommes ici avec ces investisseurs qui sont justement à la recherche de ce produit de bonne qualité.
À l'horizon 2020, le Cameroun compte produire 600 000 tonnes de cacao. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, le paludisme a fait dans la province du Nord Kivu 900 morts, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, rien que pour le premier trimestre de cette année. Le gouvernement congolais vient d'élaborer un plan stratégique pour réduire sensiblement les cas de paludisme, mais il doit relever de grands défis dans la campagne de sensibilisation, nous dit de Goma, la capitale du Nord Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka.
La médecine interne de l'hôpital provincial, comme dans différents centres de santé du Nord Kivu, les nouveaux cas ne cessent d'arriver. Sandra, 25 ans, revient de la consultation. Elle souffre du paludisme. Selon les résultats du labo qui vient de lui communiquer son médecin, elle avoue ne pas être fan de la moustiquaire.
Oui, je fais les labos. Il m'a dit vraiment que je suis malade. C'est très grave. Peut-être moi je l'ai attrapé parce que je dors sur le moustiquaire. Je n'aime pas vraiment le moustiquaire. Ça gêne beaucoup.
Sandra n'est pas la seule. Monsieur Damien est sous perfusion depuis 4 jours. Alors qu'il a eu des symptômes depuis 2 semaines, il promet cette fois-ci de dormir sous la moustiquaire une fois quitté les lits de l'hôpital.
Quand donc, il vient à l'hôpital, il est après, donc ça moi ce qui est ma articulation de ma catica, il y avait une grippe et tout comme d'habitude. Et il est plus mal, c'est pour moi, quand on a eu la pharmacie, docteur, mais on a dit que ça ne va pas avec moi.
Pourquoi alors la maladie persiste dans la région? Monsieur Lamberto, médecin au centre hospitalier Virunga ici à Goma, pense ceci.
Oui, le paludisme c'est une réalité dans notre province. Souvent les cibles, ça, les femmes enceintes et les enfants de l'âge inférieur à 5 ans. Auprès des femmes enceintes, nous donnons l'éducation sanitaire concernant l'assainissement du milieu, l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides que nous donnons même gratuitement. Et puis, tout faire pour que la chambre soit correctement aérée.
Réduire sensiblement dans les 5 prochaines années les cas et les risques liés au paludisme, et c'est le grand combat que mène la RDC à travers son plan stratégique et des luttes contre le paludisme qui vient d'être élaboré. Docteur Demson Moussondoli coordonne les activités du programme national de lutte contre le paludisme division du Nord Kivu.
Le paludisme reste la première cause de consultation et la première cause de morbidité, donc les décès, les morts aussi dans la province du Nord Kivu. Nous sommes environ dans les 130 000 cas maintenant. Car par rapport aux décès, nous sommes environ 900 cas et donc c'est encore un problème de santé publique. Le gouvernement s'engage dans la prévention, mais il s'engage aussi dans les curatifs avec l'appui de ses partenaires.
Si dans les milieux urbains, l'ignorance et la négligence font encore des victimes du paludisme, les milieux ruraux restent encore les plus touchés. La sensibilisation sur la bonne utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, l'assainissement du milieu ainsi que la prévention pour les femmes enceintes sont là les grands défis qui restent à relever dans la liste de cette maladie qui remplit encore les lits des hôpitaux ici au Nord Kivu et dont une personne sur 5 en serait morte en RDC. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
la fin de cette édition. Mise en onde Lionel Gaïma, console John Dryden. Présentation Abdulrahman Dia. Merci d'avoir suivi. Restez en contact sur notre page Facebook. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.